François,
Oui.
nous sommes en Islande depuis quelques heures. Il est 22h, on s'est bien couvert pour pas avoir froid. Et là, nous partons à la recherche.
De ce qu'ici ils appellent, enfin en anglais, les Northern Lights, à savoir les aurores boréales.
Donc on va monter dans la voiture, on va faire quelques kilomètres pour fuir la pollution lumineuse et essayer de voir ces éclairs verts qui viennent de l'énergie du soleil.
Parce qu'en fait, pour voir les aurores boréales, on nous a bien dit qu'il fallait qu'il n'y ait absolument pas de lumière, donc on va aller se perdre dans la campagne à 20-30 km de Reykjavik et puis on va essayer de voir ça.
C'est parti.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bra.
Ce soir-là, malgré une longue attente, nous ne verrons pas d'aurore boréale. Mais nous ne sommes pas venus pour cela. Nous sommes venus pour comprendre comment l'Islande et ses 330 000 habitants parviennent à vivre avec une électricité d'origine 100% renouvelable, la moins chère d'Europe. La réponse se trouve dans la géologie très particulière de ce pays.
Nous avons foré quelques puits en Islande dans ce qu'on appelle les températures supercritiques, c'est-à-dire des températures aux alentours de 370 degrés. Il y a maintenant un important projet d'exploration pour aller encore plus loin, pour forer dans le magma, ou plus exactement, près du magma. Des expérimentations ont déjà été faites dans le nord du pays et ils ont rencontré des problèmes à seulement 2200 mètres de profondeur en réalisant qu'ils étaient en train de forer dans le magma. Donc vous voyez, le magma peut être parfois très près de la surface.
So magma can be very shallow.
Si l'Islande abrite plus de 200 volcans, dont 130 en activité, c'est parce qu'elle est située à cheval entre deux plaques tectoniques, la plaque américaine et la plaque eurasienne, qui s'écartent d'ailleurs chaque année de 2 cm. Cette situation géographique particulière se voit et se sent. Des fumées à l'odeur de soufre jaillissent du sol dans des paysages volcaniques à l'horizon infini. Les sources d'eau chaude, plus de 600 réparties dans le pays, expliquent aussi pourquoi l'Islande a décidé de miser sur la géothermie, la chaleur de la terre. Pour comprendre cette stratégie, nous avons rendez-vous avec les autorités locales à Reykjavik, la capitale. La traduction est assurée par Gérard Lemarquis.
Je suis Ingvimar Paulsson, directeur de cabinet au ministère de l'Industrie et de l'Innovation.
Quelle est la stratégie aujourd'hui du gouvernement islandais en matière d'énergie renouvelable, en termes de développement à l'intérieur du pays?
La stratégie du gouvernement consiste à augmenter la part des énergies renouvelables. Aujourd'hui, toute l'électricité produite est une énergie renouvelable, d'une part la géothermie, d'autre part l'hydroélectricité.
Dans quelle proportion?
Les proportions sont de 70% pour l'hydroélectricité, 30% environ pour la géothermie, mais il faut savoir que nous avons commencé à pratiquer l'hydroélectricité il y a un siècle, alors que les premières expériences en géothermie ne datent que d'une cinquantaine d'années. 99% des maisons en Islande sont chauffées avec une énergie renouvelable, 90% grâce à la géothermie, et les 9% restants avec de l'électricité produite elle aussi avec une énergie renouvelable. Et cela ne s'est pas fait tout seul. Depuis 1970, une politique volontariste des gouvernements a consisté à accroître la part de la géothermie qui n'était vers 1970 que de 50%. Dans le chauffage des habitations.
Là, vous nous avez présenté un schéma où on voit en effet que depuis les années 70, la part des énergies fossiles qui était de 50% est passée à quasiment 0% en 50 ans. Donc aujourd'hui, 100% des énergies en Islande sont renouvelables. Ça sert à tout, vous disiez, ça sert à chauffer les maisons, mais aussi à fabriquer de l'électricité.
Oui, Anthony Lorcan est...
Les énergies renouvelables servent à produire de l'électricité, à chauffer les maisons, et les autres utilisations sont les piscines, 4%, faire fondre la neige, 4%, l'industrie, 2%, l'aquaculture, 4%. Les serres, 2%.
Parce que sinon, le climat est tellement difficile que c'est difficile de cultiver quelque chose en dehors des serres.
Oui, en Islande, il est difficile de faire pousser les fleurs et les légumes en pleine terre, alors que sous serre, grâce également à un éclairage, on peut avoir toute l'année des légumes, des fruits et des fleurs.
Alors on a l'impression qu'il y a une espèce de course en avant depuis les années 70 avec cet appel à faire venir des investisseurs ici dans votre pays. Ça a commencé par les industries de l'aluminium et aujourd'hui vous avez une stratégie qui est d'attirer de plus en plus d'investisseurs. Où en êtes-vous dans cette stratégie ?
La situation de l'Islande est la suivante. 80% de l'électricité est utilisée par l'industrie grosse consommatrice d'énergie, à savoir trois usines de transformation de l'aluminium, deux usines de ferrosilice. Telle est la situation depuis 1966. Mais la stratégie des pouvoirs publics ces dernières années a consisté à élargir le nombre et la qualité des utilisateurs. Ainsi, s'ajoute à l'industrie des data centers, par exemple.
L'idée, c'est de diversifier et d'attirer de plus en plus d'entreprises étrangères ici en Islande qui pourraient justement venir produire avec de l'énergie propre. C'est ça votre stratégie ?
Oui, nous accueillons favorablement les investisseurs étrangers, en particulier depuis la terrible crise financière que nous avons connue en 2008. Et nous favorisons l'implantation d'investisseurs, qu'ils soient étrangers ou islandais. Ceci dit, les possibilités d'accroissement de l'utilisation de l'énergie ne sont pas infinies. C'est pourquoi nous discutons au Parlement d'un accord cadre destiné à préciser exactement les possibilités de développement de ces énergies renouvelables.
L'un des objectifs que c'est fixé, le gouvernement islandais, c'est d'être 100% renouvelable d'ici 2050, c'est-à-dire ne plus émettre du tout de CO2. Or, la géothermie, ça émet du CO2. Donc, comment est-ce que vous comptez concilier ces objectifs ?
Oui, c'est exact. Il y a émission de dioxyde de carbone dans la géothermie, mais justement, nous essayons de capturer ce gaz à effet de serre pour produire du méthanol, et qui est également une énergie propre. Il y a également une expérimentation de enfouir le carbone sous la terre pour transformer en calcaire.
Et vous avez cet objectif aussi de développer un câble qui partirait de l'Islande et qui irait jusqu'au Royaume-Uni pour fournir de l'énergie propre à l'Europe. Où en êtes-vous de cette ambition ?
Il s'agit d'un investissement extrêmement lourd et compliqué et qui aura des conséquences financières. Comment pouvoir financer le projet ? Quelle influence une telle opération aurait sur la société islandaise ? Quelles conséquences environnementales ? Et enfin, d'où viendrait l'électricité ? été produite qui serait exportée.
Donc là, c'est vous qui posez les questions que tout le monde se pose justement, alors que vous êtes censé avoir les réponses.
J'étais à Londres hier, rencontré des interlocuteurs pour discuter librement de la question, mais nous sommes encore loin de finaliser l'opération.
Tuc ? On dit tac, tu ?
Tac.
Tac. Pardon, pour dire merci, on dit pas tu, qu'on dit tac, tac.
Tac, tac.
La preuve du rayonnement international de l'Islande se trouve à quelques kilomètres de là, à l'Université des Nations Unies, où nous attend Ludvig Leorgson. Il est le directeur du programme de formation sur la géothermie.
Hello, pleased to meet you. Bonjour.
Bonjour, merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes ?
Well, you are at the United
Eh bien, vous êtes au programme de formation géothermique de l'Université des Nations Unies, qui est installé dans ce que nous appelons ici la Maison de l'énergie de l'Islande, où sont installées des institutions comme l'Autorité nationale de l'énergie et l'Iceland Geosurvey, un bureau d'études géologiques.
Donc il y a plein de salles de cours ici, plein d'étudiants, on va aller en voir tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce programme de formation à la géothermie ?
Well, this training program is a part of the United Nations University.
Eh bien, ce programme de formation fait partie de l'Université des Nations Unies, qui est sans doute l'une des institutions les plus méconnues des Nations Unies. Elle a été fondée en 1975 par Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'époque. Quand elle a été créée, le gouvernement islandais était très motivé pour y participer. Nous avons été un pays en développement dans les années 70, mais maintenant, nous sommes sortis de cette catégorie et nous avons à cœur de contribuer à aider les autres pays qui en ont besoin. Quand l'université a été fondée, l'Islande a suggéré de créer un programme de formation sur la géothermie et sur la pêcherie parce que ce sont deux secteurs dans lesquels les capacités technologiques islandaises sont reconnues. Ces deux programmes existent donc depuis 1979. Mais en réalité, nous avons désormais quatre programmes, puisqu'il y en a un aussi sur la restauration des terres pour lutter contre la désertification, et un autre sur l'égalité des genres, un domaine dans lequel l'Islande veut aussi être sur le devant de la scène mondiale aujourd'hui. Donc nous avons quatre programmes, mais nous sommes le plus ancien.
En venant jusqu'à votre bureau, on a traversé un couloir où il y avait les photos de toutes les promotions depuis 1979. Vous avez de plus en plus d'étudiants, ça se voit sur les photos. D'où viennent les étudiants ?
They come from countries that are classified as developing countries.
Ils viennent de pays classés dans la catégorie des pays en développement. Et bien sûr, de pays qui ont des ressources géothermiques. Et vous savez, il n'y en a pas partout. Les meilleures ressources sont associées aux plaques tectoniques, le long de la ceinture de feu du Pacifique, du Grand Rift Est-Africain, en Méditerranée. Donc l'essentiel des étudiants viennent des pays qui sont dans ces zones. En Afrique de l'Est, il s'agit de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie, de Djibouti. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, nous avons le Salvador, le Guatemala, le Costa Rica, le Nicaragua et les pays qui longent la chaîne des Andes comme la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, la Colombie. En Asie, il y a l'Indonésie et les Philippines qui sont les deux pays qui ont les plus importantes ressources géothermiques au monde. Et puis, nous avons des pays comme les États-Unis ou le Mexique qui sont bien sûr pas en développement. Donc, ils peuvent quand même envoyer des étudiants, mais ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement islandais. Nous sommes un programme ouvert, mais les bourses sont réservées aux étudiants des pays en développement.
Alors, comment ça se passe justement pour un étudiant de Djibouti, par exemple, qui vient étudier ici à Reykjavik ? Est-ce que vous l'aidez financièrement ?
We cooperate with institutions
Nous coopérons avec les institutions et les universités des pays où nous savons que la géothermie peut jouer un rôle important. Donc nous contactons ces établissements, puis nous allons visiter leur pays pour évaluer le potentiel sur place. Et si nous sentons que nous pouvons avoir un impact, nous les invitons à nous proposer des candidats qui pourront venir se former ici, en Islande. Au fond, nous pouvons dire que les candidats ont deux profils. Ce sont soit des géologues, soit des ingénieurs. Ensuite, nous proposons différents types de formations. Notre programme basique, qui s'étend sur 6 mois, est très dense. Vous pouvez découvrir la géologie thermique, l'exploration géophysique, la chimie des fluides thermiques, l'ingénierie des gisements ou la fonctionnalité des systèmes géothermiques. Il y a aussi tout ce qui est développement, comme construire et entretenir des centrales électriques. Et puis le forage géothermique aussi, bien sûr, est très important, parce que si vous ne savez pas forer, vous ne pouvez rien faire.
Est-ce que l'on peut aller rencontrer des étudiants ?
Oui, comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre eux viennent d'Afrique, mais malheureusement, aucun d'entre eux ne vient d'Afrique francophone. Si vous étiez venu dans 15 jours, vous auriez pu rencontrer notre nouvel étudiant de Djibouti. C'est une histoire de chance, ou plutôt de malchance.
C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on y va, on va les rencontrer.
Hello, Hekla.
Hi.
I have guests for you here.
Okay. Hello.
Hi.
Hi.
Hekla.
I'm Anne-Cécile.
Ah, okay. Nice to meet you. Hi.
Do you speak French?
No.
No. Ah, vous ne parlez pas français. Dommage, alors on va le faire en anglais. D'où venez-vous?
I am from Kenya.
Je viens du Kenya.
Et donc au Kenya, la géothermie est apparemment en pleine expansion.
Yeah, in Kenya we have,
oui, au Kenya, nous avons près de 600 mégawatts installés en géothermie pour les besoins en électricité. Et oui, le gouvernement a l'intention d'aller plus loin, car les prospections sont encourageantes. Ils ont prévu d'aller jusqu'à au moins 10 000 mégawatts dans la vallée du Rift.
Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici ?
Je suis d'abord venu une première fois en 2010. C'était mon premier séjour d'études longues sur la géothermie et c'était passionnant parce que je suis une scientifique spécialiste de l'environnement. Je devais apprendre tous les aspects de la géothermie, toutes les techniques. C'est très important pour mon travail parce que je dois avoir une vision globale de la technologie pour donner des conseils s'il y a des problèmes environnementaux.
Alors justement, quels sont les risques environnementaux en lien avec la géothermie ?
Les conséquences les plus importantes viennent des centrales électriques. Elles n'émettent pas de fumée, mais de la vapeur qui est souvent polluée par des substances chimiques qui proviennent des profondeurs de la Terre. Elles peuvent affecter la qualité de l'air et c'est ce que vous devez examiner en priorité quand vous aménagez un champ de forage. Donc, mon doctorat porte principalement sur ces enjeux de la qualité de l'air. Je fais des recherches sur les gaz qui s'échappent parce que certains d'entre eux ne peuvent pas être condensés durant la conversion de l'énergie ou réinjectés dans la terre. Donc, ils s'échappent dans l'air avec la vapeur. Il y a du dioxyde de carbone à un niveau très bas comparé à la pollution générée par les énergies fossiles et du sulfure d'hydrogène. Je m'intéresse plus particulièrement au sulfure d'hydrogène qui peut affecter les écosystèmes. Par exemple, le sulfure peut créer des pluies acides qui abîment la végétation ou affecter les humains s'ils restent trop longtemps exposés. Mais des études ont prouvé que les taux de concentration ne sont pas assez élevés pour avoir des conséquences sur la santé des hommes. En revanche, aucune étude n'a été faite sur la végétation et c'est sur cela que je travaille.
Et vous restez ici combien de temps ? Quelle est la suite de vos études ?
À la fin de mon doctorat, je dois retourner dans mon pays pour travailler, pour partager mes connaissances. Je vais rentrer chez moi, dans l'entreprise de géothermie où je travaillais comme scientifique spécialiste de l'environnement. Elle est en plein développement et je vais reprendre mon poste.
Merci beaucoup. Thank you very much.
You're welcome. Yeah, thank you very much.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Frido Leon.
sur RFI.
Là, nous sommes arrêtés, nous sommes dans le sud-ouest de l'Islande. Dès la sortie de la voiture, il y a une incroyable odeur de soufre qui prouve à quel point la croûte terrestre est fine ici, puisque cette odeur de soufre vient justement du cœur de la Terre. Autour de nous, il y a plein de montagnes enneigées, pas très très hautes, hein, toutes noires, parce qu'en fait c'est de la lave. Et le contraste entre le noir de la lave et le blanc de la neige est assez impressionnant. Et on s'avance vers un endroit où il y a de la fumée qui sort du sol. Et on va retrouver Gérard le Marquis qui va nous expliquer ce qui se passe et ce qu'on voit. Ça sent très très fort le soufre ici et le sol boue. Gérard, c'est incroyable cet endroit.
Oui, 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 absolument. C'est une zone chaude, une ancienne mine de soufre ici. Et le lobby de l'électricité aimerait bien pouvoir installer une usine géothermique ici. Mais les défenseurs de la nature s'y opposent.
Parce que l'endroit est absolument magnifique. Alors c'est difficile pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, on va essayer de leur expliquer, mais on est en fait face à un sol multicolore avec des mares qui littéralement bout. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit l'eau qui bout.
Absolument. L'eau sort très très chaude, à plus de 100 degrés. Il y a une forte odeur d'œufs pourris. C'est ce que tout le monde dit. Moi, je n'ai jamais senti d'œuf pourri dans ma vie, mais tout le monde dit ça sent l'œuf pourri.
Oui, c'est ce qu'on dit.
C'est le SO2.
Le soufre, donc.
Oui.
Alors là, c'est absolument magnifique parce qu'en plus, il fait un grand ciel bleu. Il y a donc ces montagnes de lave noire qui nous entourent, qui sont recouvertes de neige. Il fait quoi, à peu près
moins 4 environ.
Et du coup, la chaleur qui émane de la terre crée des fumées. Donc, ça fait un décor absolument splendide et je pense assez unique au monde. Finalement, quand on parle de géothermie, Gérard, c'est ça, hein, c'est ce qu'on voit là, que les industriels sont allés chercher cette chaleur qui sort de la terre et qui sert à faire de voilà. L'énergie.
Absolument. Cette eau chaude, la vapeur sous pression fait tourner des turbines qui à leur tour produisent de l'électricité.
Là, on va aller justement visiter une centrale de géothermie pas très loin d'ici, dont l'énergie est utilisée pour de multiples applications. On va reprendre la voiture, c'est à quelques kilomètres. Nous sommes devant la centrale géothermique de Schwarzinki qui appartient à l'entreprise HS Orca. On va aller visiter donc une centrale de géothermie pour voir comment ça marche. Et en plus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'autour, il y a plein de sites qui se sont greffés. C'est une sorte d'économie circulaire. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Hello.
Hello. Welcome.
Thank you. Pleased to meet you.
Sömuleiðis.
Je m'appelle Þorgrímur Árnason et je suis chef de projet auprès de HS Orca.
C'est donc vous qui allez nous faire visiter cette centrale. On commence par où ?
Nous allons visiter la plus ancienne partie de l'installation et je vais vous expliquer ce qui s'y passe.
Donc on va dans la centrale directement, on vous suit et là-bas vous allez nous expliquer comment ça marche ou il vaut mieux qu'on explique ici parce que là-bas c'est trop bruyant.
Le mieux c'est de visiter l'installation et après je vous expliquerai ce que nous avons vu.
Très bien, ben on démarre par la visite. Finalement, c'est pas si bruyant que ça. Je peux vous poser une ou deux questions. Donc là, on est dans la centrale. C'est ici que vous allez puiser l'eau chaude très profond dans la terre.
Ici, c'est la première centrale qui a été inaugurée en 1978. Il y a eu d'abord une petite centrale expérimentale. Et celle-ci a été construite ensuite au vu de l'expérience qu'avait donnée l'installation expérimentale.
Þetta orku verið ekki lengur í notkun. En þetta var á sínu tíma, 1978.
En 1978, quand elle a été inaugurée, cette centrale était la plus moderne du monde. C'était le seul endroit où l'on pouvait à la fois produire de l'électricité et produire de l'eau pour alimenter les habitations.
Og einnig, þá var þetta fyrsta orkuverið heiminum sem notaði tvífasa vökva úr söltu kerfi.
C'était la première centrale géothermique du monde à utiliser de l'eau salée venant de la terre, car en profondeur ici on trouve de l'eau salée, et il a fallu résoudre un très grand nombre d'obstacles.
Aujourd'hui, ces obstacles sont résolus, donc vous puisez de l'eau salée à quelle profondeur et à quelle température ?
Þegar við boruðum fyrst, þá má segja við
Nous avons eu une chance extraordinaire. Nous sommes tombés sur une eau à 240 degrés, contenant du sel et une saumure minérale.
À quelle profondeur ?
Fyrir neðan 600 metra, en holurnar
hér... Nous étions à 600 mètres de profondeur, mais aujourd'hui, dans les installations les plus récentes, nous pouvons aller jusqu'à 2000 mètres.
Donc on y va, on va voir la force jaillir de la terre.
Við skulum fara bara og skoða hérna úr, og, kraftin, og sjá kraftin úr, úr holunni.
Allons voir la vapeur jaillir des entrailles de la terre.
Merci. En voiture. Alors là, le décor est complètement lunaire. Nous sommes sur une plateforme autour de nous. Il y a cette lave, des cailloux concassés, recouverts de neige. C'est à perte de vue. Et au milieu, on a l'impression d'être dans l'introduction de l'œuvre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Il y a comme une plateforme avec dessus un cône métallique duquel sort de la vapeur d'eau à une puissance absolument impressionnante, comme vous venez de l'entendre, c'est extrêmement puissant. Est-ce que vous pouvez nous dire si finalement c'est cette énergie-là que vous exploitez ?
Já, þetta er akkurat orkan. Við erum þessi hola var borin 1981.
Oui, précisément, c'est cette énergie-là. Ce forage a été effectué en 1981 comme un forage expérimental. Et dans l'avenir, il y aura certainement une nouvelle centrale géothermique qui verra le jour à cet endroit.
Ce qui est intéressant autour de cette centrale géothermique, c'est qu'il y a un ressource parc qui a été construit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'industries qui se sont greffées pour créer une sorte d'économie circulaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les entreprises qui bénéficient de cette énergie et comment elles se sont organisées ?
Í upphafi var þetta bara orkuverssvæði, en...
Initialement, il ne s'agissait que de construire une centrale géothermique et d'alimenter en eau chaude les populations autour. Et ensuite, après que l'on a découvert l'utilisation possible des boues siliceuses blanches, il y a eu la construction et le développement du lagon bleu et des installations autour de ce lagon bleu pour soigner, entre autres, le psoriasis.
Gérard, le lagon bleu, Blue Lagoon, c'est l'un des spots touristiques ici en Islande ?
Oui, oui, absolument, c'est incontournable, essentiellement pour les touristes qui ne restent que 24 heures et qui auront vu au moins une chose, ce lagon bleu, aux couleurs effectivement extraordinaires, mais c'est un endroit très, très
touristique.
On se baigne dans ces eaux chaudes issues de la géothermie et dans ces boues blanches, il paraît que c'est très bon pour la peau. Donc, en dehors de ce Blue Lagoon, quelles sont les entreprises qui se sont greffées autour de cette centrale géothermique ?
D'abord, il y a eu le lagon bleu, mais pas seulement le lagon bleu. Les boues blanches ont été utilisées pour fabriquer des produits cosmétiques. Et c'était le commencement de ce parc d'activité. Ensuite, il y a l'entreprise Carbon Recycling International qui nous achète de l'électricité et du CO2 et qui produit à partir de là du méthanol. Le méthanol, c'est un carburant plus propre que l'essence ou le diesel.
Et le principe donc, de ce parc d'activité, c'est qu'il n'y ait aucun déchet, c'est ça? C'est-à-dire que les déchets des uns servent de matière première aux autres?
Oui, exactement, c'est le concept, comme nous venons de l'expliquer au sujet de carbon recycling. En ce qui nous concerne aussi, puisque nous rejetons les deux tiers de l'eau que nous extrayons dans la terre.
Et au-delà donc de ces industries, à la base, cette centrale géothermique a été construite pour alimenter en eau chaude les habitants aux alentours. Vous alimentez en eau chaude combien de personnes ?
Nous produisons 190 mégawatts thermal. Nous produisons 190 mégawatts qui sont utilisés par les entreprises et la population, et nous alimentons en eau chaude environ 25 000 personnes. Et notre production d'électricité suffirait à éclairer la moitié de l'Islande.
Quelles sont les perspectives ici pour l'avenir ?
L'avenir se présente sous de très bons auspices. Il y a encore des zones géothermiques à exploiter. En ce qui nous concerne ici, nous avons le droit de forer et de prolonger nos expérimentations.
Tac.
Merci. C'était bien.
Voyons maintenant ce qu'en disent les industriels qui consomment cette énergie propre, notamment ceux qui se sont installés récemment en Islande, attirés par l'électricité la moins chère d'Europe. Nous sommes partis à l'aube, le soleil se lève sur l'océan Arctique. Nous avons rendez-vous à 40 km de Reykjavik, la capitale, juste à côté de l'aéroport sur une ancienne base de l'OTAN. C'est là que la société britannique Verne Global a installé son premier data center en 2012. Ce centre d'hébergement de données et de services informatique est hyper sécurisé.
Já, góðan daginn. Ég heiti Styrmir Hafliðason og ég öryggis- og gæðastjóri hérna hjá Verne Global.
Bonjour, je m'appelle Styrmir et je suis responsable de la sécurité dans ce data center.
Qu'est-ce qui se passe ici dans ce data center? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'autant de sécurité?
Un data center comme celui-ci est un endroit où nos clients peuvent soit stocker des données, soit opérer des calculs complexes.
En fait, vous êtes relié par des câbles à l'Europe et aux États-Unis.
Nous sommes reliés par des câbles sous-marins. Il y en a un qui nous relie à la Grande-Bretagne, un autre au Danemark et le troisième aux États-Unis.
Combien de temps met une donnée entre ici et les États-Unis et ici et l'Europe, par exemple?
Les données mettent 35 millisecondes pour parvenir d'Europe à l'Islande et 70 millisecondes entre l'Islande et le continent américain.
Là, nous sommes vraiment au cœur du data center. On voit les machines juste à côté de nous. C'est très froid. Ça fait un peu film d'action américain. Et là, nous sommes dans un hall à l'extérieur. Expliquez-nous ce qu'on voit là.
Nous sommes à l'extérieur de la salle des machines, à l'intérieur d'un hangar. Comme vous le voyez, il fait froid ici, car nous utilisons les basses températures extérieures pour refroidir l'ensemble.
Oui,
dans les data centers, on estime généralement que pour une watt utilisée pour faire marcher les machines, correspond une watt pour refroidir le matériel. Ici, on fait une grosse économie d'énergie puisque le refroidissement est naturel, il provient de l'air extérieur.
De quelle proportion est cette économie ?
Environ 50% d'économie.
Donc c'est une économie d'énergie et c'est une économie de coût aussi, j'imagine.
Nous faisons des économies d'énergie considérables, aussi bien en ce qui concerne les bâtiments eux-mêmes que pour nos clients.
Et est-ce qu'il peut faire trop froid? Parce que le climat peut être rude ici en Islande.
Il faut contrôler soigneusement les températures, c'est-à-dire, lorsqu'il fait trop froid à l'extérieur, faire venir moins d'air froid et utiliser la chaleur produite par les machines pour obtenir la température satisfaisante.
On continue la visite? Et ce qui est important, j'imagine, au-delà des capacités de refroidissement liées au climat du pays, c'est aussi l'énergie que vous avez ici. Donc c'est une énergie qui est 100% propre, c'est quoi, essentiellement de la géothermie ?
L'Islande est le seul pays au monde où on peut garantir que l'électricité utilisée est à 100% renouvelable.
C'est de la géothermie ou de l'hydroélectricité ici ?
Notre alimentation principale en électricité est d'origine hydroélectrique, mais nous avons aussi une source d'électricité additionnelle en cas de problème qui, elle, est d'origine géothermique.
Est-ce que c'est un argument d'être approvisionné 100% en énergie renouvelable dans le contexte des changements climatiques ? Est-ce que ça intéresse, par exemple, vos clients qui font des bilans carbone ?
L'Union européenne a des exigences grandissantes en ce qui concerne le bilan carbone, ce qui rend pour les entreprises leur venue ici tout à fait compétitive et attractive.
Est-ce que vous savez quelle est la part de l'énergie consommée par les data centers dans le monde ?
Non, je ne sais pas, mais je sais que ce data center est le 7e plus gros consommateur d'électricité en Islande.
Il y a beaucoup de data centers qui s'installent en Islande ?
Nous sommes les premiers, mais je sais aussi qu'il y a d'autres entreprises qui sont intéressées par le fait de s'installer ici.
Est-ce qu'il y a une demande forte de la part de vos clients qui vous inciterait du coup à agrandir votre installation ici ?
Oui, il y a cette demande. Bientôt, nous aurons rempli tout à fait l'espace disponible et il faudra s'agrandir.
Merci beaucoup pour la visite. On vous laisse travailler.
Merci pour votre venue et vous êtes les bienvenus.
Tac. Là, nous sommes dans un immeuble tout neuf face à une vue magnifique. On voit l'océan Arctique juste au large. On domine Reykjavik. On est en haut de l'immeuble de Promote Iceland, qui est donc l'agence qui s'occupe de faire la promotion de l'Islande. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Þórður Hilmarsson et je suis directeur des investissements à l'agence de promotion de l'Islande.
Alors, si on se concentre sur l'énergie, quels sont les atouts de l'Islande ?
L'Islande
a de nombreux atouts. Elle peut proposer aux investisseurs des investissements à long terme, sur 15-20 ans, de l'électricité à des prix compétitifs, de l'eau chaude, du dioxyde de carbone, de la vapeur et même de l'eau chaude de mer.
Et quand vous dites des prix compétitifs, produire de l'énergie en Islande, je crois que ça coûte deux fois moins cher qu'en Europe.
C'est vraisemblable, bien qu'il soit difficile de comparer parce que le prix de l'électricité n'est pas le même dans tous les pays. Mais ce qui importe énormément également, c'est que nous pouvons proposer des contrats sur une longue période, alors que ailleurs dans le monde, le prix de l'électricité fluctue considérablement.
Alors que vous, le prix est stable. Alors, il y a un vrai savoir-faire en Islande concernant la géothermie, parce que ce pays est situé sur ce qu'on appelle une zone chaude. Vous pouvez nous expliquer cette situation géographique très particulière ?
L'Islande est située sur la dorsale nord-atlantique, là où le continent américain et le continent européen se séparent. Il y a donc une activité volcanique considérable et comme il y a de l'eau en quantité dans les entrailles de la terre, elle produit de la vapeur, il sort une eau chaude qu'il est possible d'utiliser pour produire de l'électricité et cette électricité à son tour peut permettre un grand nombre d'activités industrielles.
En 2008, vous avez subi une crise économique forte suite à la crise financière mondiale. Vous avez été vraiment extrêmement impacté. Aujourd'hui, vous vous relancez finalement dans une logique capitaliste et libérale en attirant tous ces investisseurs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment eu de leçon tirée du passé, même si ce ne sont pas les mêmes produits, hein. Là, on parle d'industrie et puis de produits financiers.
Il y avait naturellement une partie de cette...
Bien sûr, l'Islande fait partie du système capitaliste mondial, mais il y a une très grande différence entre l'avant 2008 et la situation aujourd'hui. Ce que nous produisons a une véritable valeur dans le domaine de l'énergie ou de la pêche. Nous ne sommes pas une place financière, nous ne le sommes plus du tout. Notre but, c'est un développement fondé sur l'énergie, l'expertise et l'éducation.
Est donc une terre d'expérimentation pour la géothermie, qui est aujourd'hui la quatrième source d'énergie renouvelable dans le monde après l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien. Creusé toujours plus profond avec des technologies de pointe, en 2009, les ingénieurs de la centrale de Krafla ont atteint à plus de 2000 mètres de profondeur le magma, la roche en fusion du centre de la Terre. Ils ont réussi à capter une eau à plus de 440 degrés. Une prouesse technologique qui pourrait ouvrir une nouvelle ère dans l'exploitation
l'Organisation des ressources géothermiques du monde. Merci à Gérard Lemarquis pour les traductions et à François Porcheron pour la captation, la réalisation et la mise en onde de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure. Alors, ce que nous sommes en train de vivre est absolument incroyable, parce qu'en fait, nous avons attendu une heure dans le froid. On a commencé à voir ce qui ressemblait à des nuages devant les étoiles. Et au fur et à mesure, ça s'est éclairé, c'est devenu vert. François, c'est rare.
C'est rare, et surtout, c'est une grande chance, vu qu'on était là en reportage que 3 jours. C'est une chance totalement inespérée, parce qu'il y a des gens qui viennent de nombreuses fois en Islande ou en Scandinavie et qui n'ont pas la chance de voir ça. Et c'est vraiment très émouvant comme spectacle, parce que c'est tellement rempli d'imaginaire, de rêves, d'histoires, de contes. Et là, c'est là, c'est fantastique.
Vous pourrez voir les images sur le site de RFI, www.rfi.fr, parce qu'évidemment, c'est un peu frustrant à la radio. Voilà l'image avec laquelle nous partirons de l'Islande, les aurores boréales au-dessus de Reykjavik.
Ça, en fait, c'est une blague hyper connue en Islande, et lui la raconte assez bien. Bon, je vous laisse découvrir la fin parce que franchement, c'est palpitant.
Je savais que t'allais faire ça.